Quatrième aventure de Pierrot. Pierrot met en fuite 500 000 Tartares. Le style de l'ordre qui rappelait Pierrot à la cour et lui donnait le commandement de l'armée était si pressant qu'il ne crut pas pouvoir se détourner de quelque lieu pour voir, ne fût-ce qu'une heure, la belle Rosine, qui était devenue l'étoile polaire de toutes ses pensées et le mobile secret de toutes ses actions. La Chine était dans un danger si grand que le pauvre grand connétable remit sa visite à des temps plus heureux. Autrefois, Pierrot n'eût pas hésité un instant, dû l'état être en danger par sa négligence, mais les conseils de la fée en avaient fait un tout autre homme. Il arriva à la cour sans être attendu ni annoncé, suivant sa coutume, et apprenant que le grand roi Vautripan était à table, il alla se promener dans le jardin, sous les fenêtres de la salle à manger qui était ouverte à cause de la chaleur. Au bout de quelques instants, il entendit prononcer son nom avec de grands éclats de voix. Et sans vouloir écouter, chose dont il avait horreur, il fut forcé d'entendre le dialogue suivant. C'était le roi Vautripan et le prince Horribilis qui parlaient. « Sire, dit au roi Horribilis, ne trouvez-vous pas que Pierrot se fait trop attendre et qu'il devrait être ici ?»« Mais comment veux-tu qu'il soit déjà de retour ? Il y a 5 jours à peine que je l'ai rappelé, et le courrier avait 200 lieues à faire. Si Pierrot avait des ailes... »« Du zèle, voulez-vous dire, Majesté, interrompit Horribilis. » Tous les courtisans feignirent de trouver le calembour excellent. C'était un vrai calembour de prince. Croyez, mes amis, que ce n'est pas en faire l'éloge. Vautripan, jaloux du succès de son fils, voulut en avoir un semblable et demanda « Horribilis, sire, sais-tu pourquoi les marchands de tabac brisés ne font pas fortune ?»« Non, sire, mais à cause de la descente des nés aux enfers. » Toute la cour se mit à rire bruyamment. Vautripan regarda autour de lui d'un air triomphant. « Mais le vôtre est détestable, mon père, dit Horribilis. On le trouve dans tous les recueils de calembre naine. C'est un calembour rance. »« Mais ventre Saint-Gris, s'écria Vautripan, vit-on jamais un seul anse pareil ? Eh bien, dis-moi, toi qui as lu tous ces recueils de calembre naine, quelle différence y a-t-il entre Alexandre et un tonnelier ? » Voilà qui est bien difficile, dit Horribilis. Alexandre a mis la Perse en pièces et le tonnelier met la pièce en Perse. Mort du diable, dit Vautripan, mais ce gredin ne m'en laissera pas un. Les courtisans, voyant le tour que prenait la conversation, s'exercèrent à leur tour et firent les plus beaux calembours du monde. Chacun cherchait le sien et le renvoyait comme une balle en réponse à celui de son voisin. On parlait, on riait, on criait, on se disputait. C'était un vacarme infernal et la véritable image de la cour du roi Péto. Enfin, Vautripan frappa sur la table 3 fois avec son couteau. À ce signal, tout le monde se tut. « Savez-vous, dit-il, pourquoi les grenouilles ont pas de queue ?» Cette question inattendue fit rêver tout le monde. La belle Bandoline elle-même se mit à chercher avec sa mère la solution d'un problème si haut et si profond. Elle ne trouva rien. Horribilis chercha pareillement et tout le monde avec lui. Et après quelques instants, « Mais non » s'écria-t-on d'une voix unanime. « Ni moi non plus !» répliqua le gros Vautripan. À ces mots, ce fut dans toute l'assemblée un rire inextinguible et, comme à la table, des dieux d'Homère. Horribilis, ne perdant pas de vue ce qu'il avait à dire, ramena bientôt la conversation sur Pierrot. Après avoir fait de lui pendant quelques minutes un éloge perfide, il ajouta « Au reste, il est bien récompensé de sa justice, car on m'écrit que partout on lui fait un accueil royal, que le peuple se presse autour de lui et a voulu ces jours derniers le proclamer roi. En vérité, dit Ventripan effrayé, rassurez-vous, mon père, il a refusé le trône. Mais tu vois bien que c'est un sujet fidèle et mon meilleur ami. Vous avez raison, sire, mais qui a refusé une première fois acceptera peut-être un jour, et ce retard calculé à se rendre à vos ordres pourrait bien être un moyen de continuer ses intrigues dans les provinces et de s'y faire un parti puissant avant de recourir à la force. Ah, jusque-là, Pierrot était calme, mais il ne put tenir au désir de confondre le calomniateur. Et s'élançant du jardin au moyen des saillies du mur dans la salle à manger, il se trouva en face d'Horribilis qui pâlit à cette vue. « Sire, dit gravement Pierrot, j'ai appris qu'on se plaint de mes retards. En 3 heures, pour vous obéir, j'ai fait 200 lieues à cheval. Faut-il autre chose pour vous prouver mon zèle ?»« Non, ami Pierrot, lui cria le gros Ventripan, je suis content, non, parfaitement content de toi. »« Je sais, ajouta Pierrot, qu'on dit que j'abuse de mon pouvoir. » Je n'en abuserai plus désormais. Je le dépose entre les mains de votre majesté avec ce sabre dont elle m'a fait présent. Qu'on le remette à un homme plus digne que moi d'un pareil honneur. Et dégrafant son sabre, il le présenta au roi par la poignée. Mais tu te trompes, ami Pierrot. Je ne crois rien de ces calomnies. « Calomnie, mon père ?» demanda fièrement Horribilis. « Oui, calomnie, Horribilis. Allez, retire-toi d'ici, héritier présomptif, tu m'agaces les nerfs. C'est toi qui cherches toujours à me brouiller avec mon vrai, mon seul ami. Va-t'en à 100 lieues d'ici et que je n'entende plus parler de toi. » « Non, sire, dit fièrement Pierrot, votre majesté ne doit pas envoyer son fils en exil. » Il n'est pas convenable que je sois cause d'une querelle de famille. Ce serait bien mal vous rendre les bienfaits que j'ai reçus de vous. Pierrot, dit Ventripan, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est le pire ennemi que tu aies dans cette cour. Il te fera tant de méchanceté que tu seras forcé de me quitter. Et moi, que ferai-je sans toi? Il n'importe, sire, je pars si vous l'exilez. « Que ta volonté soit faite, dit Ventripan. Mais parlons d'autre chose et reprends ce sabre de commandement. Tu vas rassembler l'armée et marcher aux frontières. »« Quand partirai-je ? » dit Pierrot. « Demain à midi. Avant ton départ, je te donnerai mes dernières instructions. Allez, va te reposer. » Pierrot sortit et fut suivi de toute la cour. Quand le roi fut seul avec la reine, « À quoi pensez-vous, dit la reine, de donner un si grand pouvoir à un sujet? C'est lui offrir l'occasion d'une trahison. »« Ah, vous voilà, dit Ventripan, comme d'habitude, même avis qu'Horribilis. »« Horribilis a raison, dit la reine, et vous l'avez traité ce soir d'une manière offensante et injuste. »« Bon, s'il n'est pas content de moi, dit le roi, qu'il parte, » je ne ferai pas courir après lui. Mais tout cela serait fort bien, dit la reine, s'il partait seul. Mais nous sommes résolus à le suivre, ma fille et moi, et à quitter un père dénaturé. Eh bien, suivez-le, si bon vous semble, dit Ventripan impatienté. Au fond, cependant, il se sentait ébranlé. « Oui, nous le suivrons, dit la reine en prenant son mouchoir, et vous aurez la barbarie de nous sacrifier tous à un étranger. » À ces mots, elle tira de sa poche un petit oignon fraîchement pelé qui lui servait dans ces occasions, s'en frotta les yeux et se mit à pleurer abondamment. Le pauvre Ventripan commença à se regarder comme un méchant mari et un fort mauvais père. Il voulut consoler sa femme, qui ne l'écouta pas. Après avoir pleuré, elle se mit à sangloter, puis elle eut une attaque de nerfs et remua si douloureusement les bras et les jambes dans toutes les directions que le pauvre roi, bien qu'accoutumé à des scènes pareilles, crut qu'elle allait mourir ou devenir folle. En même temps, elle tournait les yeux d'une façon effrayante. « Faut-il sonner? Faut-il appeler ses femmes ?» se disait le gros ventripan. « Quel scandale! On croira que je l'ai maltraité, battu peut-être. » Tout à coup, voyant une carafe pleine d'eau, il allait la verser sur elle, lorsqu'elle fit signe qu'elle se portait mieux et qu'elle allait rentrer dans son appartement. Ventripan, bénissant Dieu qui a créé l'eau et l'homme de génie qui a inventé les carafes, la reconduisit doucement et il allait se retirer lorsqu'elle le retint. « Vous donnerez à Horribilis le commandement de l'armée, » dit-elle. « Ben, il le faut bien, puisque vous le voulez. Mais Pierrot sera son lieutenant. »« Ben, j'y consens, vous êtes un bon père et un grand roi. »« J'ai bien peur de n'être qu'un imbécile, » pensa Vautrin. « Je sacrifie Pierrot à la crainte de subir la colère de ma femme. » Ah, si du moins j'avais la paix dans mon ménage. Ce qui me console, c'est qu'il n'y a pas un mari qui ne soit aussi bête que moi en pareille occasion. Sur cette mélancolique réflexion, il s'endormit. Faites-en autant, mes amis, si ce n'est déjà fait. L'homme qui dort, dit le vieil Alcofribas, est l'ami des dieux. Bon, le lendemain, à midi, Pierrot se présenta au conseil. Ventripan le regarda pendant quelque temps d'un air embarrassé. Il roulait sa tabatière dans ses doigts en cherchant un exorde. « Pierrot, dit-il enfin, es-tu mon ami ? Oh, sire, pouvez-vous douter de mon dévouement ? Eh bien, donne-moi une preuve sur le champ. Je suis prêt, dit Pierrot. Que faut-il faire ? Veux-tu partager le commandement de l'armée avec Horribilis ? Pierrot se mit à rire. Sire, dit-il, la nuit a porté conseil à ce que je vois. Mais pourquoi voulez-vous partager entre nous un commandement que vous pouvez lui donner tout entier ? Mon ami, dit le roi, je désire qu'Horribilis fasse ses premières armes sous ta direction, mais comme il n'est pas convenable qu'un prince de sang royal obéisse à un simple sujet. Sire, dit Pierrot, vous vous trompez, je ne suis pas un sujet. Je suis venu me mettre à votre service, vous m'avez accepté, vous pouviez me refuser. S'il vous plaît aujourd'hui de m'obéir mon commandement, reprenez-le, sire. Aussi bien votre majesté est sujette à revenir si souvent sur ses résolutions que je ne puis guère compter sur la continuation de votre faveur. J'aime mieux partir de plein gré aujourd'hui qu'être renvoyé plus tard. Bon, dit Ventripan, le voilà qui se fâche. Hélas, pourquoi ne puis-je pas accorder tout le monde et te faire vivre en bonne intelligence avec ma femme et mon fils ? « Sire, dit Pierrot, je suis étranger et par là suspect à tout le monde. Laissez-moi partir, vous vivrez plus tranquille, et moi aussi. »« Ingrat, dit le roi en pleurant, et si tu pars, qui commandera l'armée ?»« Mais le prince Horribilis, sire, mais il se fera battre. »« Ah, cela vous regarde. » « Il se sauvera le premier, déshonorera mon nom. Que puis-je y faire ?» dit Pierrot. « Ami, reste avec nous. »« Je ne puis, sire. Celui qui commande est responsable. Si vous me donnez un collègue, je ne le serai plus. Si vous me donnez un maître, ce sera pire encore. Que le prince Eurybilis vienne à l'armée avec moi si cela lui plaît, mais qu'il m'obéisse ou je ne réponde rien. Je te le promets, dit Van Tripan, je t'en donne ma parole royale. Voici les pleins pouvoirs, allez, pars maintenant. Mof, voilà un bon homme, dit Pierrot en rentrant chez lui, et un pauvre homme. Là-dessus, il fit ses préparatifs, c'est-à-dire qu'il fit sceller Fanlair et prit un manteau de voyage. 3 jours après, il était au camp. L'armée chinoise, composée de 800 000 hommes, attendait l'arrivée des Tartares à l'abri de la fameuse muraille qui sépare la Chine du vaste empire des îles inconnues. Vous savez, mes amis, que cette muraille a été construite pour préserver les Chinois des attaques de la cavalerie tartare, qui est la plus redoutable du monde. Comme la plupart d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de voir ce singulier rempart, vous ne serez pas mauvais gré, je crois, au vieil Alcof Ribas de vous en donner une idée. Cette muraille, dit-il, a plus de 100 pieds de haut et de 30 pieds de large. Elle est semée de tours qui s'élèvent de distance en distance. Elle s'étend sur une longueur de plus de 600 lieues et sert de frontière aux deux pays, tantôt bordant la plaine, tantôt surplombant d'affreux précipices. Au pied de chaque tour sont 2 portes, l'une qui s'ouvre du côté de la Chine, l'autre qui fait face aux îles inconnues. Pierrot était à peine au camp depuis 2 jours, lorsqu'un bruit semblable au grondement de la foudre, au pétillement de la grêle sur les toits et au désordre confus d'une foire, se fit entendre et annonça l'approche de l'ennemi. À ce bruit, les malheureux Chinois se crurent tous morts. Ils jetaient leurs armes, ils couraient dans le camp, éperdus et en désordre. Pierrot calma tout à coup cette confusion en faisant publier que le premier qui serait trouvé hors de sa place et de son rang serait pendu pour l'exemple. Chaque soldat courut aussitôt chercher ses armes et rejoindre son drapeau. Le général monta sur la tour pour voir l'armée tartare. C'était un spectacle effrayant et admirable. Imaginez-vous 500 000 cavaliers montés à cru sur de petits chevaux sauvages et hérissés. Chaque cavalier était armé d'un arc, d'une lance et d'un sabre. En tête s'avançait le formidable Carbadantes, le frère cadet de Pantafilando. Il était beaucoup moins grand que son frère et mesurait 20 pieds à peine, mais sa force était colossale. Il luttait sans armes, corps à corps, avec les ours et les écartelets de ses mains. Il portait à l'arçon de sa selle une massue en argent du poids de 10 000 livres. Il ne tuait pas, il assommait et réduisait en poussière ses ennemis. Son cheval, d'une taille proportionnée à la sienne et d'une vigueur extraordinaire, avait un aspect effroyable. On ne pouvait le regarder sans frémir. Cavalcantes était le fils du fameux Tchitchitchatchitchov, empereur des îles inconnues, et de la cruelle sorcière Tautrika, dont le nom est si célèbre dans les annales du Kamtchatka. Il avait appris de sa mère quelque chose des pratiques de la magie noire. Il pouvait à son gré soulever et pousser les nuages, évoquer les vents et les brouillards, faire paraître et employer à son service les démons. Sa férocité était sans bornes. Il avait massacré plus de 100 000 Chinois du vivant de Pantafilando, et de leur tête il avait fait construire une tour au sommet de laquelle il s'enfermait le soir dans les nuits sombres et étoilées pour contempler les astres et évoquer les puissances infernales. Une main invisible avait gravé sur son front, pendant son sommeil, les 3 lettres que voici, qui, dans le langage magique, signifient « tue ». Il semblait en effet ne vivre que pour tuer, brûler, massacrer, exterminer. Il égorgeait sans pitié les femmes, les enfants, les vieillards. Il avait surtout pour les enfants une haine inexplicable. Il aimait à boire leur sang tout chaud encore et fraîchement versé. C'était le monstre le plus effroyable qu'on eût jamais vu. Ce qui ajoute encore à la frayeur qu'il inspirait, c'est qu'il était invulnérable, excepté au creux de l'estomac. Partout ailleurs, les sabres, les lances, les flèches, les balles rebondissaient sur sa peau sans l'entamer, comme si elles eussent été élastiques. Tel était ce guerrier épouvantable, dont le seul nom jetait l'effroi dans le cœur de tous les Chinois. Pierrot même, au premier abord, eut peine à soutenir sa vue. Mais quand il pensa à l'opinion que Rosine aurait de lui si elle le voyait, ou si elle apprenait qu'il avait reculé devant le danger, il se sentit si brave que 100 000 calabantes ne l'eussent pas fait reculer d'une semelle. Cependant, il ne voulut pas hasarder en une bataille le destin de la Chine. Il vit bien que son armée avait besoin de s'aguerrir, et attendant tout du temps et de son courage, il fit faire bonne garde le long des murailles et dans l'intérieur des tours, et prit soin d'exercer ses soldats. Horribilis arriva au camp quelques jours après et demanda d'un ton hautain pourquoi l'on n'avait pas livré bataille à l'ennemi. Pierrot exposa ses raisons avec une fermeté polie et tout le conseil fut de son avis. « Mon père, dit Horribilis, ne vous a pas envoyé pour discuter, mais pour combattre. Il y a longtemps qu'on sait que vous êtes plus prudent que brave. » Pierrot se mordit les lèvres pour ne pas répondre avec sévérité. Mais, sans s'inquiéter du discours du prince, il fit continuer les exercices militaires. Horribilis, qui cherchait une occasion de le perdre, déplora tout haut la lâcheté du grand connétable, qui compromettait, disait-il, le sort de l'État. On ne l'écouta point. Mais un jour, Pierrot, impatienté, lui dit en présence de toute l'armée, « Seigneur, daignez-vous mettre avec moi la tête de l'avant-garde. Nous allons faire une sortie générale contre les Tartares. » « Il ne convient pas, dit Horribilis avec dignité, que j'expose inutilement des jours qui sont précieux à l'État et à ma famille. Je vais en demander la permission à mon père, et si sa majesté le permet, vous me verrez courir le premier dans la mêlée. » Comme on le pense bien, il se garda d'écrire, et Pierrot, content de l'avoir réduit au silence, ne lui en parla pas davantage. Cependant qu'Arbadantes, furieux de se voir arrêté par cette muraille et par la prudence de Pierrot, résolut de donner un assaut général. L'embarras était grand parmi les Tartares, car ils ne pouvaient escalader la muraille à cheval et savaient mal combattre à pied. Qu'Arbadantes, après avoir un peu rêvé à cette difficulté, fit fabriquer une énorme quantité d'échelles d'une hauteur de plus de 140 pieds chacune et décida que l'escalade se ferait à 9 h du matin après déjeuner. Au jour fixé, Pierrot, averti par ses éclaireurs du dessein de l'ennemi, borda la grande muraille d'infanterie dont la seule fonction devait être de jeter des pierres sur la tête des Tartares pendant l'assaut et de renverser leurs échelles dans le fossé. La hauteur de la muraille était telle qu'il n'y avait rien à craindre des assiégeants si les assiégés faisaient leur devoir. Les deux chefs prononcèrent un petit discours que le vieil Alcofribas nous a conservé. « Brave Tartare, dit Cabartantes, montez à l'assaut sans peur. Si vous mettez le pied sur ce rempart, la Chine est à vous. Massacré, pillé, brûlé. Je me réserve pour esclave tout ce qui est au-dessous de 20 ans. Allez, tuez ou vendez le reste et prenez leurs terres. » Vive le généreux Carbandantes! Crièrent les Tartares. Ce cri fut si retentissant et poussé avec tant d'ensemble que la muraille en fut ébranlée. Quelques pierres tombèrent des créneaux. Veuillez, dit Carbandantes, les dieux mêmes sont pour nous. La muraille s'écroule pour vous livrer passage. On applaudit de toutes parts. Le même accident avait effrayé les Chinois. Ce n'est pas pour leur livrer passage, dit Pierrot, c'est pour les écraser que ces pierres sont tombées d'elles-mêmes sur leur tête. La vérité est que les pierres n'étaient pas solidement liées avec du ciment romain, et Pierrot le savait bien, mais il donnait à des soldats poltrons les seuls encouragements qu'ils puissent comprendre. « Vous avez entendu ce Tartare, ajouta-t-il, et vous savez ce qui vous attend. Que ceux qui aiment la patrie, la famille, la liberté, se souviennent qu'on ne défend qu'avec le sabre ces trois biens si précieux. Au surplus, que chacun de vous fasse comme moi. » À ces mots, il retroussa ses manches comme un bon ouvrier qui va faire de bonnes besognes. Tous ces soldats l'imitèrent et attendirent de pied ferme le premier choc. Cavardantes dressa une échelle contre la muraille et commença l'escalade. En un instant, plus de 1000 échelles furent dressées et se chargèrent de Tartares. On les voyait se presser les uns derrière les autres comme des fourmis noires dans une fourmilière. Ils poussaient des cris effrayants, et le regard seul de Pierrot maintenait les Chinois à leur poste. Lorsque Cabardantes fut arrivé au sommet de l'échelle, il mit la main sur le créneau et dit à Pierrot qu'il attendait. « Ah, chien, c'est toi qui as tué Pantafilando, tu vas mourir !» En même temps, il mit un pied sur la muraille. Pierrot saisit ce pied, le leva en l'air, fit perdre l'équilibre au géant et le jeta dans le fossé, les bras en avant et la tête la première. Dans cette chute épouvantable, tout autre eût été réduit en miettes. Le Tartare ne fut qu'étourdi du coup. « Eh bien, lui cria Pierrot, quelle est la hauteur de la muraille? Tu dois le savoir maintenant. » À ces mots, il prit par les deux montants l'échelle toute chargée de Tartares qui montait derrière leur empereur et la balança quelque temps dans l'air comme s'il eût hésité sur ce qu'il devait faire. Tous ces malheureux poussaient des cris de rage et d'angoisse. Enfin, Pierrot la poussa violemment sur une échelle voisine. Toutes deux tombèrent sur une troisième, qui s'écroula sur une quatrième et celle-ci sur une cinquième. À cet effrayant spectacle, de toutes parts s'éleva un profond silence. Les échelles tombaient les unes sur les autres, jusqu'à la dernière sur une étendue de plus d'une demi-lieue, qui était celle du champ de bataille. L'une d'elles présentait un spectacle fort singulier. Comme chaque Tartare tenait sa lance haute derrière son compagnon, celui du premier rang reçut la pointe de la lance si malheureusement dans le corps qu'il se trouva embroché tout vif comme une alouette. Le second reçut à son tour la lance du troisième et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui eut le bonheur de sauter à terre avant la chute de l'échelle et de s'enfuir. Plus de 20 000 Tartares périrent dans ce premier assaut et de la seule main de Pierrot. « On ne s'étonnera pas de ce nombre, dit le vieil Alcofribas, si l'on songe qu'il y avait plus de 1000 échelles et que chacune d'elles était chargée d'hommes jusqu'au dernier échelon, et qu'il y avait plus de 150 échelons et que tout s'écroula en même temps. » On irait même fort au-delà si l'on calculait tous ceux qui s'estropièrent dans cette affaire, ceux qui eurent les bras cassés ou les jambes rompues ou les côtes enfoncées ou l'œil poché ou le nez en marmelade. Mais on conçoit assez que nous préférions la vérité à la gloire même de Pierrot. il n'y eut pas plus de 20 000 morts. C'est déjà bien assez, si l'on songe au temps qu'il faut pour nourrir, élever, instruire un homme, aux soins qui lui sont nécessaires, à la dépense que font les parents avant qu'ils soient bons à quelque chose, qu'ils sachent travailler, parler et se conduire. Ah, si l'on songeait à tout cela avant de faire la guerre, sur ma parole, il n'y aurait pas tant de conquérants. Et s'il y en avait encore, si quelques enragés voulaient encore tuer leurs semblables et se couvrir de gloire, tous les autres hommes se jetteraient sur eux et les lieraient comme des fous furieux auxquels il faut des douches et les sinapismes. Cependant, Pierrot eut raison de casser le cou aux Tartares. Il faut avoir horreur de ceux qui n'aiment que la force et la violence, mais cela ne suffit pas pour être heureux. Il faut encore savoir les écarter avec un sabre. C'est le devoir de tous les honnêtes gens et de tous les gens de cœur, et, croyez-moi, l'on n'est pas honnête homme si l'on ne sait pas et si l'on n'ose pas défendre ses parents, ses amis, sa patrie et soi-même. Ainsi pensait Pierrot, mais comme il ne pouvait instruire les Tartares, il était forcé de les corriger par la force. Celui qui se sert du sabre, dit l'Évangile, périra par le sabre. Avec le temps et les enseignements de la fée, Pierrot devenait sage. Il n'usait de sa force que pour protéger les faibles et les opprimés. Mais alors, il n'hésitait jamais, eût-il de lui en coûter la vie. Après l'écroulement des échelles, un murmure confus s'éleva dans l'air et se changea en un concert affreux de cris et d'imprécations qu'on entendit jusque dans les gorges profondes des monts Altaï. Pierrot se croisa les bras et regarda quelque temps son ouvrage en silence. « Hélas, dit-il en soupirant, tous ces malheureux ont eu un père, une mère et des enfants peut-être. Quelle exécrable folie les pousse à se jeter sur nous, comme des chiens enragés ou comme des bêtes féroces qui cherchent leur pâture. Dieu m'est témoin que j'ai horreur de ces sanglants sacrifices. Mais pouvais-je laisser massacrer sans défense ces pauvres Chinois? Ne sont-ils pas déjà bien malheureux d'être si lâches et de n'oser se défendre? Faut-il que partout la force triomphe de la justice ?» Comme il était plongé dans ses pensées, Cavalcante sortit de son étourdissement et lui cria « Tu m'as pris en traite, Pierrot, mais je me vengerai !» À ces mots, saisissant un énorme rocher qui s'élevait près de là, il le lança à la tête de Pierrot. Celui-ci évita le coup et le rocher alla tomber dans les rangs des Chinois. 5 ou 6 furent écrasés et les autres s'enfuirent épouvantés. Pierrot les rallia sur le champ et les ramena à leur poste. Ils s'attendaient à une nouvelle escalade, mais les Tartares n'osèrent livrer un second assaut ce jour-là. Il manquait d'échelles et voulaient ensevelir leurs morts. En revenant dans sa tente, le grand connétable reçut les félicitations de tous ses principaux officiers. Les soldats s'écriaient « Vive Pierrot !» L'illumination fut générale, on buvait, on chantait, on se réjouissait. Pierrot remercia le ciel et la fée Aurore à qui il devait tant de gloire. « Ah !» se disait-il, « il ne manque à mon bonheur que d'avoir ma marraine près de moi et de vivre tranquillement dans la ferme de Rosine. » Au moment où il formait ce vœu, la bonne fée parut. Pierrot se jeta à ses genoux et lui baisa les mains avec une respectueuse tendresse, suivant la coutume. « Je suis contente de toi, Pierrot, lui dit Aurore. Tu commences à comprendre et à remplir tes devoirs. Je veux t'en récompenser. Donne-moi la main. » Pierrot le fit et au même moment se trouva transporté dans une vallée qu'il connaissait bien. Il reconnut la maison de la belle Rosine et sentit son cœur battre violemment. « Entre hardiment, dit la fée, et ne parle à personne. Je t'ai rendu invisible. Écoute et regarde seulement ce qui se fait et se dit ici. » Le soleil venait de se coucher derrière la colline et les travaux de la campagne avaient cessé. On voyait de toutes parts rentrer les vaches, les moutons, les poules et tous les animaux de la ferme. Dans la cuisine, on apprêtait le souper de ceux qui revenaient du travail. Déjà, la table était dressée et la mère de Rosine surveillait ses préparatifs. Quand tout fut terminé, elle s'assit avec sa fille devant la porte de la maison et toutes deux demeurèrent en silence, écoutant ce doux et éternel murmure qui sort le soir pendant l'été des bois, des champs et des prairies et qui semble être une prière que la nature entière adresse au Créateur. Bientôt, la lune parut à l'Orient et éclaira cette scène paisible. La cloche de l'Angélus et tous les habitants du village élevèrent leur cœur vers le ciel. Rosine et sa mère s'agenouillèrent et après quelques instants de méditation, se rassirent pour regarder la voûte bleue et pure du firmament dans lequel on voyait à peine quelques étoiles. « À quoi penses-tu, Rosine ?» dit la mère. « Oh, je pense, ma mère, au bonheur de vivre ainsi près de toi, au calme dont nous jouissons. Je me figure que s'il y a quelque image du bonheur sur la terre, c'est chez nous qu'elle doit se trouver. » « Oui, tu peux remercier le ciel de tant de bonheur, mais qui sait s'il durera. Toutes les choses de ce monde sont si fragiles. Je puis mourir. Oh, maman !» s'écria Rosine en se jetant dans les bras de sa mère. « Mais la guerre est déclarée. Qui sait si l'ennemi ne viendra pas jusqu'ici ?»« Oh, mais pour cela, maman, ne crains rien. N'est-ce pas le seigneur Pierrot qui commande notre armée ? Y a-t-il au monde un guerrier plus brave ? Et qui t'a dit qu'il commandait l'armée ? Je l'ai vu dans les journaux, dit la jeune fille en rougissant. Oh, tu t'occupes donc des journaux à présent ? Autrefois, tu ne pouvais pas les souffrir. Ici, Rosine se trouva si embarrassée pour exprimer ce que sa mère avait déjà deviné. Je veux dire qu'elle ne s'intéressait pas plus qu'auparavant à la politique, mais qu'elle s'intéressait fort à Pierrot, que sa mère ne poussa pas plus loin ses questions. Pierrot fut saisi d'une joie si vive qu'il allait se montrer lorsque la fée Aurore le retint. « Regarde, » dit-elle. Et en même temps, elle toucha Rosine de sa baguette. Il sembla à Pierrot que le cœur de la jeune fille s'entr'ouvrait et qu'il voyait ses plus secrètes pensées. Mais ce cœur était si pur, si noble et si doux que Pierrot se sentit pris d'un violent désir de se jeter à genoux devant elle et de l'adorer comme la plus parfaite créature de Dieu. « Pierrot, dit la fée, voilà celle que je te destine. » Mais il faut que tu l'obtiennes par des travaux auprès desquels ce que tu as fait n'est rien. Il faut que tu sois devenu le meilleur des hommes et le plus brave. Que tu laisses de côté pour toujours tes intérêts personnels, ta vanité et le désir même que tu as d'être applaudi des autres hommes. Et à ce prix, veux-tu être un jour son mari ? Oh, je le veux ! S'écria Pierrot. Songe bien, dit la fée, que tu ne seras pas toujours heureux et glorieux, que tu seras un jour calomnié, méprisé peut-être, et qu'il te faudra, pour supporter cette cruelle épreuve, un courage plus grand encore, plus inébranlable et plus rare que celui que tu as montré jusqu'ici. « Je le veux !» dit Pierrot. À ces mots, la bonne fée passa au doigt de Rosine, sans qu'elle s'en aperçût, un anneau magique, constellé, tout semblable à celui qu'elle avait autrefois donné à Pierrot. « Vous voilà fiancée, » dit-elle. Puis reprenant la main de Pierrot, en une seconde, elle le fit transporter dans sa tente par les génies soumis à ses ordres. Le lendemain, ce héros, regardant du haut du rempart le camp ennemi, vit se mouvoir toutes sortes de balistes, de béliers, de catapultes et d'autres machines de guerre que faisait apprêter Cavalcantes. Cette vue l'inquiéta beaucoup. Il ne pouvait se dissimuler que ses soldats ne tiendraient pas en rase campagne contre la cavalerie tartare. Il voyait bien à ses préparatifs que le mur qui défendait l'armée ne résisterait pas longtemps. Cependant, le mal était sans remède. Il fit amasser une grande quantité de bois, d'huile et de rochers pour brûler ou écraser les assaillants et proposa des prix pour les plus braves et les plus robustes de ses soldats. Jour et nuit, on s'exerçait dans le camp à tirer de l'arc, à manier le sabre ou la hache. Enfin, après un mois d'attente, il vit que l'ennemi allait livrer un second assaut. Un matin, toute l'armée tartare se mit en mouvement. 60 chevaux traînaient une machine énorme dont je ne fourre pas le détail parce que le vieil Alcofribas l'a négligé, mais que les ingénieurs de Cabardantes déclaraient capable d'enfoncer une montagne et de s'y frayer un chemin. Cette machine s'avança lentement jusqu'en face de la grande muraille chinoise. À ce moment, Cavalcantes donna le signal. Elle partit comme une flèche et alla s'enfoncer dans la muraille, qui s'écroula avec un bruit terrible sur une largeur de plus de 20 pieds. Aussitôt, Cavalcantes et les plus braves de son armée se précipitèrent pour entrer dans la brèche. Toute l'armée chinoise poussa un cri de terreur, mais Pierrot veillait. Lorsque Cabardantes mettait le pied dans l'intérieur des retranchements, il ouvrit la bouche pour crier de toute sa force « Victoire !» Pierrot saisit ce moment et, profitant de ce que les pierres écroulaient et l'empêchaient de se retirer assez vite, il jeta promptement dans sa bouche ouverte un énorme chaudron d'huile bouillante qu'il avait fait préparer. Cabardantes ferma la bouche trop tard et, dans sa surprise, avala tout le contenu du chaudron. Cette huile descendant dans ses entrailles le brûla horriblement. Il s'enfuit, jetant sa lance et courut vers son camp en poussant des cris affreux. « Qu'avez-vous, seigneur ? » lui cria son majordome. Cabardantes, exaspéré, lui donna un coup de pied si violent que le malheureux majordome fut jeté à 600 pas de là et tomba mort sur les rochers. Instruits par cet exemple, les autres officiers se tenaient à distance et s'enfuyaient au lieu de répondre à son appel. Pendant ce temps, le malheureux empereur cuisait intérieurement et se tordait dans des convulsions désespérées. Enfin, le chirurgien en chef arriva et, ne lui voyant aucune blessure, crut qu'il avait la fièvre et voulut lui tâter le pouls. Cabardantes ouvrit la bouche et fit signe que de là venait son mal. « Il a trop mangé, » pensa le chirurgien, « c'est une indigestion. » Et il fit préparer un lavement. Mais le malheureux prince, indigné de n'être pas compris, saisit le chirurgien par le cou et par les jambes et le cassa en deux sur son genou. Après cet exploit, tout le monde s'enfuit et il resta seul, maugréant, pestant contre Pierrot, maudissant 1000 fois la sotte envie qu'il avait eue mal à propos de crier victoire et ne parlant que d'écorcher son ennemi. Mais Laissons ce féroce empereur et revenons à notre ami. Il n'eut pas le temps de se réjouir beaucoup de la fuite de Cabardantès et du bon tour qu'il lui avait joué, car les gardes de celui-ci, qui le suivaient de près, montèrent à leur tour sur la brèche. « En avant !» cria Pierrot à ses soldats, et pour leur donner l'exemple, il fendit en deux d'un coup de sabre un officier tartare. D'un revers, il abattit la tête de son voisin et coupa l'épaule droite au troisième. Le quatrième, qui était un guerrier renommé dans l'armée tartare pour son courage, s'avança sur Pierrot et voulut le percer d'un coup de lance. Pierrot para le coup, et saisissant une broche qui tournait devant le feu en plein air et qui portait un dindon à moitié rôti, il la passa au travers du corps du tartare. « Voilà un dindon à une oie !» dit Pierrot. Animés par son exemple, les Chinois firent merveille et le combat devint acharné autour de la brèche. Cependant, les Tartares, toujours renforcés, allaient l'emporter lorsque Pierrot s'avisa d'un moyen qui lui réussit. Il fit jeter sur la brèche une énorme quantité de fagots et y fit mettre le feu. Dès que la flamme commença à s'élever dans les airs, aucun tartare n'essaya plus de passer dans le retranchement, et Pierrot, n'ayant affaire qu'à ceux qui étaient entrés déjà et qui n'étaient pas plus de 2 ou 3 000, les tailla en pièces. Aucun d'eux ne voulut se rendre. Le jour finissait, il était trop tard pour tenter une nouvelle attaque. Pierrot fit réparer la brèche pendant la nuit, et les Chinois travaillèrent avec tant d'ardeur qu'au matin la muraille était refaite, et qu'un monceau de cendres et le sang versé indiquaient seul le lieu du combat de la veille. L'incendie avait gagné les machines de Cabardantès et les avait consumées. Il fallait donc recommencer ces pénibles travaux. L'armée tartare murmurait contre la capacité de son chef, et Cabardantès, furieux, était couché dans son lit, sans pouvoir remuer ni manger ni boire, parce que ses entrailles étaient bouillies. Ce second combat fit à Pierrot encore plus d'honneur que le premier. On convint qu'il avait montré un courage, une présence d'esprit, une habileté digne des plus grands capitaines. Malheureusement, plus sa gloire croissait, plus la rage de ses ennemis cherchait les moyens de le perdre. Horribilis, qui s'était bien gardé de paraître durant le combat, écrivit à Ventripan que Pierrot était seul maître dans l'armée, qu'il distribuait tous les emplois à ses créatures et qu'il aspirait ouvertement au trône. Si ce prince scélérat avait osé faire assassiner Pierrot, il l'aurait fait sur le champ. Mais personne ne voulut se charger d'une pareille mission. Les uns craignaient la fureur des soldats, d'autres craignaient encore plus Pierrot lui-même. Quoiqu'il ne fût pas sur ses gardes, tout le monde savait qu'il était si fort, si agile, si intrépide, si adroit et si prompt à prendre un parti, qu'il fallait être sûr de le tuer du premier coup pour oser l'attaquer, même durant son sommeil. Cependant, Horribilis voulait à tout prix le faire tuer ou tout au moins l'exiler. Il avait pris pour confident un vieux magicien dont l'âme était noire de crime et qui avait contre Pierrot la haine que les méchants nourrissent toujours contre les gens de bien. Le magicien s'appelait Tristemplette. Il était petit, avait les yeux enfoncés sur des sourcils grisonnants, le nez busqué et touchant presque au menton, les pommettes des joues saillantes et l'air d'un féroce gredin. Ses yeux, comme ceux des chats, voyaient la nuit aussi bien que le jour. Ce coquin qui, plusieurs fois déjà, avait mérité la potence, et n'échappait à la mort que par les intelligences qu'il avait avec les démons, plut tout d'abord Horribilis, qui le trouva digne de lui. Tous deux cherchaient continuellement le moyen de perdre Pierrot. « Mais comment faire ? » dit Horribilis, « il est inattaquable. » Tristan Plaide sourit. « Oh, le plus inattaquable, dit-il, a toujours quelque endroit faible. C'est par là qu'il faut le prendre. » Et tirant de sa poche un affreux grimoire, il prononça les mots sacramentels qui signifient dans la langue magique « Cara, Brancara » et en français « Approche, esclave ». C'est la formule usitée pour évoquer le démon. Celui-ci parut. « Maître, dit-il, tu m'as appelé, que me veux-tu ? » « Bon, ici je passe sous silence une conversation assez longue entre le diable et le magicien. » Alcof Ribas, qui s'y connaissait, la rapporte tout entière avec les formules magiques. Mais je craindrais, en vous les enseignant, de vous conduire sans le savoir sur le grand chemin de l'enfer. Et le résultat fut qu'Horribilis apprit que le pauvre Pierrot aimait éperdument la fille d'une fermière et qu'ils avaient été fiancés par la fée Aurore. Hélas, tremblez et soupirez, âme sensible, car de ce jour datent les premiers malheurs de notre ami. À peine Horribilis eut-il appris tout cela, qu'il quitta l'armée avec son confident, fit enlever Rosine et sa mère dans un nuage par le moyen des démons qui obéissaient à Tristan Plaide, et les renferma dans un château revêtu à l'extérieur de plaques d'acier travaillées par les esprits infernaux et qui avaient la propriété d'être invisibles. Au moment même où Horribilis commettait ce crime, l'anneau magique de Pierrot lui serra le doigt comme s'il eût été vivant et son cœur battit violemment sans qu'il sût pourquoi. C'était un de ces pressentiments que Dieu envoie aux âmes tendres et qui ne leur font pas éviter le malheur. Pierrot, attristé, plein de pensées lugubres, eut recours à la fée Aurore. La bonne fée lui apprit ce qui s'était passé et cherchait à le consoler. Pierrot s'arrachait les cheveux de désespoir. « Malheureux, disait-il, mais pourquoi les ai-je quittés ? Mais quel besoin avais-je de combattre les Tartares ? Ah, ma reine, c'est cette funeste absence qui les a perdus. Qui sait où elles sont maintenant ? Qui sait entre les mains de quel ennemi et quel traitement il leur fait subir ? Périsse mille fois la Chine avec tous les Chinois. Allons, je vais rejoindre ma Rosine chérie, je pars. » « Tu ne partiras pas, Pierrot, lui dit la fée avec une douce sévérité. Tu as des devoirs plus importants à remplir. » Et comme elle vit qu'il ne l'écoutait pas, « Je sais où est ta fiancée, dit-elle, et je veillerai sur elle. Ne crains rien. Fais ton devoir en homme de cœur, et sois sûr qu'après la guerre, je t'aiderai moi-même à retrouver Rosine. » « Vous me le jurez, dit Pierrot un peu consolé. « Mais je te le promets, oui, par la barbe blanche de Salomon, à qui tous les génies obéissent. » À ces mots, elle disparut. Pierrot, impatient de retrouver et de venger Rosine, brûlait de finir la guerre dans une bataille. Il connaissait trop bien la fée pour craindre qu'on fît aucun mal à sa fiancée pendant son absence. Mais il avait peur qu'elle s'ennuyât d'être ainsi enfermée, qu'elle devint triste, qu'elle tomba malade. Il avait peur de tout, le pauvre Pierrot, quand il s'agissait d'elle. Et il avait bien raison, car s'il n'y a jamais eu quelque chose de beau, de doux, d'aimable et de gracieux sous le soleil, croyez bien que c'était la belle Rosine. Je ne lui ai connu qu'un défaut, c'est un petit grain de caprice. Mais ce grain était si petit, si difficile à découvrir, et se cachait si vite, qu'on n'avait pas le temps de l'apercevoir. Toutefois, c'est par là qu'elle touchait à l'humaine nature. Vous le savez, mes amis, rien n'est parfait dans ce monde. Telle qu'elle était, Pierrot aurait donné l'empire de la Chine, des deux Mongolines et de la presqu'île de Corée pour pouvoir presser sur son cœur une de ses pantoufles. Ceux qui n'approuveront pas la folie de Pierrot feront bien de s'aller pendre. Ils ne sont pas dignes de vivre. Cependant, Carbonantès était guéri. Ses brûlures ne lui avaient laissé qu'un tic affreux qui le rendait encore plus repoussant. Le nerf zygomatique s'était resserré et comme replié sur lui-même, et malheureux prince, pour rendre à ses mâchoires leur ancienne élasticité, faisait d'épouvantables efforts qui mettaient en fuite tous les assistants. À cela et à quelques coliques près, dont il était brusquement saisi lorsque par mégarde il avalait un potage trop chaud, il dormait, mangeait et digérait fort bien. La première fois qu'il se brûla de nouveau en avalant sa soupe, il saisit le maître d'hôtel et le jeta la tête la première dans une immense chaudière où cuisait le dîner des 500 000 tartares. À la fin du repas, on retrouva les braies de ce pauvre homme. Comme ces braies étaient en caoutchouc, la dent des tartares eux-mêmes n'avait pu les entamer. On chanta un De Profondis au lieu de dire les grâces comme à l'ordinaire. Mais il n'en fut plus question. Le lendemain, le nouveau maître d'hôtel, craignant le même sort, ne servit qu'un dîner de viande froide. Cabardantès se mit dans une colère furieuse. « Viens ici !» lui cria-t-il. Au lieu d'obéir, le pauvre cuisinier courut à la porte pour se sauver, mais il n'en eut pas le temps. L'empereur lui lança une javeline qui le perça de part en part et s'enfonça dans la muraille où elle resta fixée. Tout le monde applaudit à ce trait d'adresse et s'enfuit de peur d'un nouvel accident. Enfin, Carbonantès trouva un maître d'hôtel à sa guise. C'était un tartare intrépide, d'une naissance illustre et fort estimé dans toute l'armée, mais qui ne s'était jamais mêlé de cuisine. Le premier jour qu'il entra en fonction, Cabardantès remarqua qu'il se tenait toujours derrière son fauteuil. Il lui demanda le motif de cette réserve. Le tartare répondit d'abord que c'était le devoir de sa charge. Puis, comme le prince insistait, il tira sa dague et déclara fièrement que si le dîner avait été mauvais, il aurait, sans attendre plus longtemps, coupé la tête à Cabardantès pour éviter le sort de ses prédécesseurs. Oh, ta hardiesse me plaît, dit l'empereur, mais pour que je puisse dîner en paix, il ne faut pas que j'aie derrière moi un homme toujours prêt à me couper le cou. Laisse là tes fonctions et rentre dans l'armée. Je te fais mon lieutenant principal. Tout le monde admira et loua tout haut la grandeur d'âme de Cabardantès et tout bas l'heureuse hardiesse du maître d'hôtel. Celui-ci devint aussitôt le ministre, le favori de son maître. Oh, cette histoire, qui est très véridique puisqu'elle sort de la bouche du vieil Alcofribas, a suggéré à ce sage enchanteur la réflexion suivante. Que, dans toutes les situations de la vie, le courage et la franchise sont encore les meilleurs moyens de sortir d'embarras. On ne mange jamais que par lâcheté, et le lâche n'inspire à personne ni estime ni intérêt. Voilà, mes enfants, la réflexion du vieux magicien. Si elle vous paraît bonne, faites-en votre profit, sinon, mettez-la au panier. Cependant, ni la grandeur d'âme de Cabardantès, ni la hardiesse de son favori, qui s'appelait Trotzmalchkov, J'oubliais de vous le dire, et cela est important pour la suite de cette histoire. Ne donnait à manger à l'armée tartare. Plusieurs mois s'étaient écoulés sans qu'elle eût obtenu le moindre succès. Ses provisions commençaient à s'épuiser. Il ne restait plus ni veau, ni vache, ni cochon. Camardantes lui-même était réduit à manger du cheval. Et c'était pas une bonne nourriture, croyez-moi, avant que quelques savants de l'Institut eussent inventé d'en faire manger aux autres, pour manger eux-mêmes du bœuf et des poulards d'un meilleur marché. Au contraire, l'armée chinoise, bien pourvue de tout par les soins de Pierrot, aguerrie à supporter la vue et le choc des Tartares, devenait tous les jours plus redoutable. Les plus lâches désiraient la bataille, se croyant, avec de l'aide de Pierrot, assurés de vaincre. Et Camardantes rugissait de colère et se voyait pris en un piège. Il n'osait retourner en arrière de peur d'être détrôné par ses propres sujets. Furieux de leur défaite, ni tenter une nouvelle escalade après que les deux premières lui avaient si mal réussi. Enfin, il s'avisa d'un moyen sûr pour rétablir l'égalité des forces et combattre même à cheval malgré la grande muraille. Il fit amasser dans les îles inconnues toutes les charrettes et tous les tombereaux qu'on put trouver. Il les fit amener par des bœufs et les fit conduire au pied de la muraille, chargés de pierres énormes. En peu de temps, il se forma un entassement prodigieux que Camardantes se fit recouvrir de sable et de terre pris dans le voisinage. Cet entassement de rochers, de sable et de terre amoncelé, descendant en pente douce du sommet de la muraille des Chinois jusqu'au camp des Tartares, et permettait à la cavalerie de marcher et même de galoper sans crainte jusqu'au sommet de la muraille. Là, on devait combattre corps à corps, et dans un combat de cette espèce, Camardantes et ses soldats ne doutaient pas de la victoire. De son côté, Pierrot suivait de l'œil les progrès de ce travail. Il fit secrètement creuser le terrain sous l'immense amas de matériaux entassés par l'ennemi, fit soutenir ce travail par des voûtes en maçonnerie d'une solidité admirable et enferma 500 ou 600 tonneaux de poudre dans ses caves qui étaient creusées à une profondeur de près de 100 pieds. En même temps, à 50 pas environ de la grande muraille, il en fit construire une seconde toute semblable. L'espace de 50 pas qui séparait les deux murailles était destiné à servir de fossé où toute la cavalerie tartare, arrivant au galop, serait forcée de sauter. En même temps, il fit construire des ponts-levis qu'on pouvait à volonté abaisser ou relever et qui devaient servir pour la retraite des Chinois en cas d'attaque. Plus d'un mois se passa, cependant, que l'on faisait ces préparatifs de part et d'autre. Chacune des deux armées se tenait sur ses gardes, mais évitait d'attaquer son adversaire. Enfin, Camardantes crut le moment favorable. « À quelle sauce te mangerai-je » cria-t-il à Pierrot. « À l'huile !» répondit celui-ci. À ce souvenir, l'empereur des îles inconnues fut transporté de fureur et donna le signal du combat. 400 000 Tartares à cheval, car les autres avaient péri de fatigue ou sous les coups de Pierrot, s'ébranlèrent en même temps et coururent au grand galop sur l'esplanade qu'ils avaient construite. C'était un spectacle admirable et grandiose. Tous ces chevaux galopant ensemble sur une profondeur extraordinaire, et ces cavaliers tenant la lance en arrêt et poussant des cris affreux, jetèrent la terreur dans l'âme des Chinois. Pierrot s'en aperçut et donna le signal de la retraite. Ils se retirèrent en bon ordre au moyen des ponts-levis, poursuivis de près par la cavalerie tartare, qui, s'échauffant à cette vue, prit le grand galop et arriva juste au moment où le dernier soldat chinois ayant passé, on commençait à lever les ponts-levis. Aucun tartare ne soupçonnait le piège, Pierrot ayant caché ses travaux au moyen de palissades qui étaient dressées sur la muraille et qui semblaient n'avoir pour but que d'abriter la poltronnerie des Chinois. Le jour de la bataille, il avait fait abattre ces palissades qui furent jetées dans le fossé antérieur. Aussi les Tartares furent bien étonnés lorsque, arrivant sur la plateforme de la muraille, ils entendirent la voix moqueuse de Pierrot leur crier « Au bout du fossé, la culbute !» Ce fut en effet une culbute épouvantable. Les 30 premiers rangs de la cavalerie, lancés à toute bride, sautèrent dans le fossé sans pouvoir contenir l'ardeur de leurs chevaux. Les autres, avertis à temps, restèrent sur le bord et regardèrent tristement le sort de leurs camarades. Ceux-ci tombaient les uns sur les autres avec un bruit sourd de têtes brisées, de jambes cassées et de poitrines enfoncées. Les chevaux se débattaient sur les hommes et tous ensemble, percés de leurs propres armes, remplissaient de sang le fossé. Les Chinois roulaient sur eux des rochers énormes qui achevaient ce que leur chute n'avait pas tué du premier coup. Au milieu de ce désastre, l'âme sensible de Pierrot fut saisie de compassion. Il arrêta ses soldats et fit offrir à ces malheureux qui se débattaient contre la mort de leur donner la liberté et la vie s'ils voulaient se rendre. Tous acceptèrent et Pierrot leur fit jeter des cordes au moyen desquelles on les repêcha un à un. On les envoya dans l'intérieur de la Chine où ils furent employés à faire des routes, à cultiver la terre et à mener les chevaux, besogne qu'ils entendaient mieux que personne. Un seul refusa de se rendre, c'était Cavardantes lui-même. Il était tombé le premier dans le fossé avec son cheval, mais comme il était invulnérable et que ses os étaient faits d'une manière plus dure que le fer, il n'eut aucun mal dans sa chute. Il jurait affreusement en voyant tomber successivement sur sa tête toute l'avant-garde de son armée. « Scélérat ! » cria-t-il à Pierrot. « Ah ! Tu n'oserais m'attaquer en face, tu me tends des pièges. » « Mais comme à une bête féroce, » dit Pierrot, « et tu es en effet aussi bête que féroce. » Quant à te combattre en face, j'en serais fort aise, si je n'avais pas en ce moment quelque chose de mieux à faire, mais sois sûr que cela se retrouvera. » Pierrot ne voulut pas dire tout haut ses raisons, mais toute l'armée les comprenait sans qu'il eût besoin de parler. Il ne craignait pas de risquer sa vie. Seulement, il ne savait pas à qui laisser le commandement après sa mort. Il n'avait que du mépris pour la lâcheté de Ribilis, et aucun des généraux chinois n'était assez illustre par sa naissance et par son courage pour qu'on pût lui confier le sort de l'armée. Il aurait donc consenti de grand cœur au combat si la guerre eût été terminée et que l'armée tartare eût consenti à se retirer après la mort de son chef. Mais il fallait d'abord battre les Tartares si complètement qu'ils n'osassent plus revenir en Chine. Et ceux-ci étaient encore très loin de se décourager. S'ils furent d'abord étonnés de la profondeur du fossé et du triste sort de leurs camarades, cet étonnement dura peu, et ils demeurèrent sur le bord de la muraille, ne pouvant pas passer et ne voulant pas faire retraite. Enfin, le brave Trotzmanschkoff, qui avait pris le commandement après la chute de Karl Badantes, envoya chercher des fascines, des pierres, de la terre, et ordonna de combler le fossé. En entendant donner cet ordre, Pierrot s'avança sur le parapet du rempart et dit « Mes amis, vous avez, si vous le voulez, une occasion admirable de faire la paix. Je suis vainqueur et je vous l'offre. J'estime votre courage et je vous promets de vous rendre vos prisonniers. À ce prix, les deux nations seront amies jusqu'à la fin des temps. Croyez-moi, une bonne paix vaut mieux que la plus glorieuse guerre. Va prêcher ailleurs, lui cria Trotzmanchkov. Nous ne partirons pas avant d'avoir vengé dans le sang de tous les tiens le malheur de nos camarades. En même temps, il banda son arc et tira une flèche contre Pierrot. Celui-ci fut blessé légèrement à la main. « Mais vous l'avez voulu, cria-t-il, que le sang versé retombe sur vos têtes !» Et il donna le signal de mettre le feu aux poudres. Les artificiers, car en ce temps-là, la poudre ne savait qu'à tirer des feux d'artifice et il n'y avait ni fusil, ni canon, ni pistolet. Les artificiers approchèrent des lances à feu de la traînée de poudre qui communiquait avec tous les tonneaux. En un instant, une effroyable explosion se fit entendre et souleva le champ de bataille tout entier. La muraille intérieure elle-même, derrière laquelle se tenaient les Chinois, fut ébranlée. Une masse prodigieuse de sable et de rochers, soulevée par l'explosion, fut lancée dans les airs à une hauteur extraordinaire. Et parmi ces sables et ces rochers, plus de 150 000 Tartares périrent avec leurs chevaux. Les autres s'enfuirent au grand galop jusqu'à 2 lieues du camp. Kabar Dantès, qui attendait encore dans le fossé entre les deux murailles qu'on vint le tuer ou lui rendre la liberté, fut lancé dans le camp de Pierrot et retomba à terre sans se faire aucun mal. Aussitôt, il s'élança au travers des Chinois qui se gardèrent bien de l'arrêter et d'un bond extraordinaire, il sauta le fossé et se trouva libre et du côté des Tartares. Alors, sans s'arrêter à considérer cet effroyable spectacle, il alla rejoindre son armée qui galopait en désordre du côté des îles inconnues. Pierrot fit sur le champ creuser un nouveau fossé et déblayer l'esplanade. Mais il n'avait pas à craindre de sitôt un nouvel assaut. Dès que Kabar Dantès reparut dans son armée, ce fut une huée universelle. Les uns lui faisaient compliment de son adresse à sauter et le comparaient à une balle élastique qui tombe à terre et rebondit dans les airs. D'autres lui reprochaient leur défaite et lui montraient avec des imprécations les blessures qu'ils avaient reçues à son service. Les plus échauffés parlaient de le lapider. Le géant, effrayé de la fureur croissante des Tartares, s'écria d'une voix qui dominait le tumulte qu'il fallait attribuer la défaite à la perfidie de Pierrot et non à sa propre inhabileté, que personne ne pouvait prévoir l'existence du fatal fossé, qu'il l'avait prévu moins que tout autre puisqu'il avait sauté dedans le premier, mais qu'il était prêt à venger son armée et lui-même en provoquant Pierrot à un combat singulier. Au reste, ajouta-t-il en terminant, si quelqu'un de vous se croit plus brave et plus habile que moi, mais qu'il vienne me le dire en face, je lui ferai voir de quel bois je me chauffe. » À ces mots, saisissant le soldat le plus voisin par une jambe, il le fit tourner en l'air comme une fronde et le lança sur une montagne voisine. Le malheureux fut écrasé du coup. À cet acte de vigueur, l'armée tartare reconnut son chef et chacun, en silence, regagna son rang. Le lendemain, toute l'armée retourna au camp, mais il ne restait plus que les piquets des tentes et les cendres des feux du bivouac. Pendant la nuit, Pierrot avait fait enlever les vivres et les bagages. À cette vue, la consternation s'empara des Tartares, et Kabar Dantès lui-même commença à désespérer de les retenir sous les drapeaux. Il y eut une trêve de 10 jours pendant lesquels chaque parti ensevelit ses morts, car même du côté des Chinois, Il y avait eu quelques victimes de l'explosion. Cependant, l'empereur des îles inconnues s'arrachait de désespoir les cheveux et la barbe. Il insultait Pierrot à haute voix et le défiait de descendre en plaine et de se mesurer avec lui. Le sage Pierrot, secrètement piqué mais retenu par les raisons de prudence et de salut public que nous avons dites plus haut, ne daigna pas répondre à ses cris furieux. Il attendait que la faim et l'ennui forçassent les Tartares à se retirer. Un siège de cette espèce ne pouvait durer longtemps. Les assiégés, bien pourvus de vivres et d'armes, tous les jours plus aguerris et plus confiants dans leur chef, commençaient à ne plus redouter l'ennemi. La nuit, Pierrot faisait des sorties, harcelait les Tartares, enlevait leurs convois et leurs chevaux, et finit par les réduire à une telle disette de toutes choses qu'un matin, prenant leurs armes et leurs drapeaux, officiers et musique en tête, ils allèrent déclarer à Cabardantes qu'ils rentraient chez eux et que, s'ils voulaient continuer la guerre, ils resteraient seuls. L'orateur de l'armée était ce même Tauchmanschkoff qui avait été quelques jours le favori de l'empereur, mais qui, devenu suspect par son courage et sa fierté, aspirait secrètement au trône. Cabardantes, hors de lui, saisit sa masse d'armes et voulut se précipiter sur ses officiers. Ceux-ci, sans l'attendre, partirent au galop, suivis de toute l'armée qui prit la route des îles inconnues. Cabardantes courut après ses soldats et en assomma quelques-uns, ce qui ne fit que donner des jambes aux paralytiques et des ailes à ceux qui ne l'étaient pas. Tout à coup, il entendit un grand bruit. C'était l'armée de Pierrot qui, son général en tête, poursuivait les Tartares en chantant ce refrain. « C'est le chien de Jean de Nivelle qui s'enfuit quand on l'appelle. » Le malheureux Cabardantes eut d'abord envie de faire face comme un sanglier acculé par des chasseurs, mais il perdit courage en voyant Pierrot piquer les deux à sa rencontre et toute son armée le suivre. « Attends-moi !» lui cria Pierrot, qui, monté sur Fanlair et fier comme Artaban, jouissait alors du fruit de sa prudence et de sa valeur. Et en même temps, il chantait sur un air nouveau les paroles si connues. « Car les Tartares ne sont barbares qu'avec leurs ennemis. Attends-moi, foudre de guerre, attends-moi, vainqueur des vainqueurs !» Cabardantes ne s'amusa pas à répondre. Il courait le pied si vite et il avait la laine si longue qu'en une heure il avait déjà fait plus de 20 lieues. Pierrot, voyant qu'il était impossible de l'atteindre, rejoignit son armée. Il fut accueilli par des acclamations. Sans attendre l'ordre de leur chef, tous les soldats se précipitèrent à sa rencontre. Ils portaient au bout de leurs lances des couronnes de feuillage qu'ils jetaient sous les pieds de son cheval. Fanlair, qui avait autant d'intelligence que d'ardeur, faisait des courbettes gracieuses à droite et à gauche, comme pour remercier la foule des honneurs qu'elle rendait à son cavalier. Et peu à peu, l'enthousiasme devint si violent et si frénétique qu'on enleva Pierrot et son cheval pour les porter à bras. « Que tous ces hommages me seraient doux, pensait-il, si je pouvais les partager avec Rosine. » Horribilis seul ne prenait aucune part à la joie commune. Enfermé dans sa tente avec son noir confident, il attendait l'effet des lettres qu'il avait écrites à son père. Enfin, ce message si désiré arriva. Au moment même où Pierrot rentrait dans sa tente, entouré de ses officiers, un courrier lui remit une dépêche du roi. Pierrot la lut et, sans changer de ton, dit à ceux qui l'entouraient « Oh, Sa Majesté me rappelle à la cour et me charge de remettre au prince Horribilis le commandement de l'armée. À cette nouvelle inattendue, tout le monde fut consterné. « Mais qu'allons-nous faire ?» disaient les généraux. « Si le grand connétable nous quitte, nous sommes perdus. Les Tartares vont revenir en force. En une heure, tout sera fini. » Des officiers, la nouvelle passa aux soldats, et leur joie se changea en un profond accablement. Ceux qui ne craignaient rien sous les ordres de Pierrot craignaient tout sous le commandement d'Horribilis. On s'assembla d'abord sous les tentes, puis dans la grande place du camp. On résolut de ne pas obéir, de garder Pierrot malgré lui, de renvoyer Horribilis et, s'il le fallait, de proclamer Pierrot roi de la Chine. De tous côtés s'éleva le cri de « Vive le roi! Vive Pierrot Ier! À mort Horribilis! À bas Ventripan et toute sa dynastie !» À ces cris, Horribilis se cacha sous un tapis avec triste emplette et attendit l'événement. Mais il n'attendit pas longtemps. Pierrot sortit de sa tente et s'avança dans la foule. Tout le monde s'écria « Vive Pierrot !» Il fit signe de la main qu'il allait parler. Tout le monde fit silence. « Ami, dit-il, que signifie ce tumulte et ces acclamations? J'entends que quelques séditieux veulent désobéir au roi et me garder malgré moi-même. Est-ce ainsi que vous obéissez aux lois de la patrie et au grand roi Ventripan? Il a plu au roi de me donner le commandement de son armée et j'ai obéi. Nous avons combattu et vaincu ensemble. Je ne l'oublierai jamais, mais le salut de la patrie ne tient pas à un homme. Sous le prince Horribilis, vous vaincrez l'ennemi comme vous l'avez vaincu avec moi. Voulez-vous, en désobéissant au roi, allumer une guerre civile, quand la guerre étrangère est à peine terminée? Retournez à vos tentes et attendez-y les ordres du prince. Pour moi, je pars. Je regrette de rendre si mal le discours de Pierrot. Il y a ici une petite lacune bien regrettable dans le texte du vieil Alcofribas. Les rats ont mangé le manuscrit, de sorte que j'ai pu à peine en déchiffrer quelques lignes que je vous donne sans ordre et sans suite. Mais croyez, mes amis, que ce discours fut rempli de la plus profonde éloquence, car sur le champ, chaque soldat rentra dans sa tente en poussant une dernière acclamation en signe d'adieu, et Pierrot partit sans résistance après avoir remis le commandement à Horribilis. Ah! « Je respire enfin !» s'écria celui-ci en recevant le cachet royal qui était le signe de l'autorité de Pierrot. « Je n'aurai plus sans cesse sous les yeux ce rival détesté. C'est maintenant, mon brave Tristemplette, que je vais me couvrir de gloire à mon tour et poursuivre l'ennemi jusque dans sa capitale. Laissons-le se bercer de ses espérances. Avant peu, nous verrons les tristes effets de sa jalousie et le danger dans lequel il mit toute l'armée par sa lâcheté. Mais suivons maintenant Pierrot. Il était partagé entre deux sentiments contraires. La tristesse d'être enlevé à ses soldats au moment de recueillir le fruit de sa victoire et la joie de recouvrer sa liberté et de pouvoir venger et sauver Rosine de ses ennemis. Pour dire la vérité, cette dernière impression était si forte chez lui qu'il courait au galop en chantant sur la route de Pékin et que les passants le croyaient à moitié fou. Il n'avait pas tort. Au fond de l'amour, n'y a-t-il pas toujours un grain de folie? Voyons maintenant ce qui se passait à la cour du grand roi Ventripan. Si vous le voulez, nous remettrons ce récit au chapitre suivant. Je me suis un peu essoufflé en courant à la suite de Pierrot sur le grand chemin, mais je vais me reposer Suivez mon exemple.